Ouais, salut Daniel, c'est Hervé à Brest. Dis-moi, il y a un beau tableau dans le Télégramme aujourd'hui qui nous montre les nouveaux tarifs, ce qui remplace le 12. Avant, on avait le 12, et maintenant, je me suis amusé à compter. Il y a 109 prix différents. Là, je la trouve rigolote, celle-là. Allez, bonne journée, et n'oubliez pas de vous bouger le cul demain. Faut sortir les ronces. Salut.
Daniel, c'est Sophie de Paris 8 et Pascal Juris. On est vendredi soir, près du Louvre. On fait une manif improvisée qui a commencé à Bastille. On a l'intention d'aller jusqu'à l'Élysée après le discours de Monsieur Chirac. Et on est là pour dire non à ce qui se passe. Il y a quand même pas mal de monde, une bonne ambiance. Et en plus, Paris la nuit, c'est très joli. Donc voilà, je laisse le bruit pour témoigner. Au revoir.
Voilà, bah moi je suis à Brest. Petite réaction par rapport à l'annonce de Monsieur Jacques Chirac ce soir. Bah, apparemment, les lycéens, les étudiants, les salariés, les syndicalistes n'ont pas forcément compris le bon message de Monsieur Chirac qui voudrait nous faire rester chez nous. Donc on est à peu près 300 en train de manifester dans la bonne humeur et dans le calme. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc apparemment, on n'a pas compris ce qu'on nous a dit. Salut.
Oui, donc bonjour, c'est Jules Aimé du mouvement étudiant de Poitiers. C'est pour vous dire qu'on a tellement adoré l'allocution de notre cher président de la République. Nous sommes introduits avec plus de 150 de nos camarades dans le rectorat de Poitiers, après avoir déversé les poubelles devant l'UNP, après avoir fait une manif à 500 devant la préfecture. Faut savoir que demain, 1er avril, à Poitiers, se tiendra une superbe manifestation, une manifestation pour le CPE, pour la répression contre les sales gauchistes, pour la SAP de l'éducation nationale. Donc voilà, là-bas si je suis, demain ça se passera devant le palais de justice, au lieu de la justice à Poitiers. Et nous comptons sur vous. Au revoir.
Bon voilà, c'est encore ce fait Paris 8 et Pascal. Donc on a continué notre petite manif jusqu'à Place d'Opéra. Les CRS nous ont bloqués, mais on a réussi à les contourner. L'ambiance était toujours très joyeuse. On est arrivé à Place de la Concorde. Et on a vu un paquet de CRS quand même. Et en passant le pont pour aller jusqu'à l'Assemblée nationale, les CRS ont fait barrage. Ils ont couru, ils ont fait une scène et ils ont balancé de la lacrymo. Ce fait qu'on ne peut plus rejoindre nos copains d'à côté. Et voilà, donc on est une petite partie à être séparée et à s'être pris un petit peu de gaz. Mais bon, on était très pacifistes. On n'a fait aucun dommage et on s'est gazé parce que on traîne nos pieds devant l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'était au moins pour vous raconter la suite des épisodes. Vous verrez plus tard.
Mohamed, le chauffeur de taxi, que j'ai déjà appelé une fois. Je me trouve à la place de la Concorde. À peine le discours de Monsieur Jacques Chirac est prononcé que la jeunesse est sortie dans les rues de Paris. La place de la Concorde est complètement, complètement fermée. Alors, elle est fermée de quel côté, à votre avis? Non, pas du côté du boulevard Saint-Germain, parce que là, on se dérouge vers le 14e, vers le quartier populaire. Non. Elle est fermée vers les Champs-Élysées, vers le 16e arrondissement, vers le 8e. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent « Talon de fer », un livre de Jacques London, qui est paru dans les années 1900 et quelques... Je me rappelle pas la date exactement. Ça me fait penser à la milice qui, dans le livre, et il dit qu'il y aura la limite du système capitalistique une espèce de milice qui défend les intérêts des gros. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça. À bientôt.
Ouais, salut Daniel, c'est Céline et Amandine et tous nos potes de Strasbourg et on est vraiment dégoûtés parce que Chirac vient de dire et de toute façon on a décidé qu'on rappelait mardi parce que...
Il est exactement minuit et demi, on vient de se faire déloger à coups de lacrymo et de gaz au poivre par les mecs des flics à Poitiers. On était dans le rectorat, on était assis, on avait tous des fleurs dans les mains, on a commencé à jouer, à chanter, etc. Je vous conseille d'aller voir les photos qu'on mettra sur le site du mouvement étudiant de Poitiers. C'est lemouvementetudiant.c.la. lemouvementetudiant.c.la. Voilà, bon courage Daniel, c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra s'exprimer librement dans notre beau pays. Et on voulait tous dire au nom du mouvement de Poitiers que la démocratie, eh ben, ça pique les yeux. Voilà, allez, bon courage, au revoir.
Bonjour, c'est Pierre de Lyon. Alors comme ça, le CPE, c'est pratiquement mort. La droite recule. Les syndicats gagnent, les étudiants gagnent, la gauche a gagné. Vous en êtes sûr? Moi, j'ai surtout l'impression que la droite, qui a pas mal de têtes, est en train de sacrifier Chirac, qui a démoli partout, même chez Stéphane Bern. Villepin est mis de côté, mais l'homme providentiel arrive, Sarkozy. Attention, vous allez vous faire rouler dans la farine encore une fois. Le Sarkozy va vous dire, mais oui, il n'y a plus rien. Et puis dans quelques mois, on vous dira, mais après tout, ça a été promulgué. Le CPE, ça marche. De toute façon, tout ça pour en arriver à Sarkozy, ce serait quand même dramatique, non? Allez, courage.
Alors, vous avez tous entendu le Tchi qui a parlé. Donc, le CPE va être retiré. Autre grande nouvelle, les compagnies de CRS vont être dissoutes. Hein, donc, il y a entière qui va servir à maintenir la police de proximité dans les banlieues, hein, donc s'attaquer particulièrement à tous les trafics de drogue et autres, et puis assurer la sécurité des personnes. Un autre tiers qui va être formé pour lutter contre la délinquance financière, et puis le troisième tiers qui rentrera dans la police, hein, puisque le rôle des CRS, c'est pas de lutter contre des gens qui manifestent dans la rue pour des choses tout à fait normales et défendables. Enfin, pour respecter la loi, Jacques Chirac a donc annoncé qu'il donnerait toutes les informations nécessaires dès la fin de son mandat de président de la République afin de pouvoir poursuivre les enquêtes sur le rôle du RPR, et en particulier de son président, avant son élection, hein, dans différentes affaires, les HLM de Paris, des Hauts-de-Seine et autres joyeusetés. Donc voilà, puis alors et également, hein, chose très importante, constitution d'un énorme pôle juridique financier pour lutter contre toute la délinquance financière, contre le blanchiment de l'argent, et puis s'attaquer également aux paradis fiscaux. Et puis dernière chose, eh bien il annonçait également que donc maintenant, il était inutile de discuter avec le gouvernement, mais qu'on devait s'adresser directement au parti UMP, et puis à son président Nicolas Sarkozy pour dès qu'il y avait un problème en fait dans la société, c'était un peu la peine de manifester. En fait, on contactait Nicolas Sarkozy et l'UMP.
Voilà quelques messages parmi beaucoup, 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 beaucoup de messages découverts aujourd'hui, ce matin, par Christophe Imbert et moi-même dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. On est un petit peu débordé par tout ça. On essaye de choisir ceux qui nous semblent plus représenter ce que nous vivons, qui sont des échos des inquiétudes, des réflexions qui traverse le pays actuellement. Aujourd'hui, on retrouve, comme chaque début de mois, chaque premier lundi du mois, l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois-ci, mais surtout autour de la question, évidemment, vous en doutez, du CPE, de cette image de la France dans le monde, de cette histoire un peu du CPE, de replacer un peu ça dans une perspective un peu historique, un peu sociale, un peu politique. Mais on va voir une chose amusante, c'est que pendant que je rencontrais ce matin l'équipe du Monde Diplomatique, Guy Van Cotil était à Saint-Ouen, devant l'usine PSA de Saint-Ouen, avec des étudiants et des lycéens. Et on va voir comment ce qui se disait entre lycéens, étudiants, ouvriers, salariés, devant la porte de cette usine, et ce qu'il disait au même moment dans les bureaux du Monde Diplomatique se ressemble beaucoup. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. On a eu énormément aussi de messages suite à l'émission de vendredi sur notre ami BHL, le livre de Nicolas Beau et Olivier Tesseur aux éditions Des Arènes, une imposture française.
Oui, bonjour, c'est Daniel. Non, Serge Halimi ne s'est pas trompé. Bernard-Henri Lévy est aujourd'hui même à 12h sur France Inter, aujourd'hui dimanche. Au revoir.
Coucou, et ben je viens d'écouter BHL sur France Inter, donc dans l'émission Philophile, donc ce dimanche midi. Donc Philophile, dedans il y a Philo, et j'ai bien eu cherché, bien écouté attentivement, bah j'ai pas entendu une seule minute de Philo. Ah si. Il y a eu un petit moment où on a entendu Raymond Aron, c'est devenu un peu plus compliqué. Pour le reste, je suis allé aux États-Unis, j'étais en troisième, et c'est bizarre, j'ai eu exactement les mêmes idées que lui. Bon, le truc c'est que lui, il est plus en troisième, hein. Allez, ciao.
Je trouve que j'ai vu, j'ai visité, j'ai pensé que moi, je dis que je, tout à fait, je. BHL chez Patricia Martin.
Bonjour, c'est Sylvie de Châtelier. Voilà, moi je voudrais réagir par rapport au livre de Nicolas Beau et Olivier Tesseur, là, une imposture française de BHL. Mais moi je suis quand même bien contente de savoir qui sont ses amis, parce que ça me permet de comprendre plus de choses, tu vois. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le journaliste du Monde diplomatique là de l'émission de décembre. Il a tout vu, tout bien vu le gars, hein. Bon, enfin, pour réaliser toutes ces ficelles là, BHL, ben, il hésite pas à faire des choses qui, à mon avis, ne sont pas très claires. Mais bon, j'encourage tout le monde à aller sur le site, justement, desarènes.fr, là, pour lire les chroniques BHLiennes, ou alors d'aller sur le blog off d'Olivier Tesseur. Mais bon, apparemment, il est en suspension, je sais pas, on verra la suite. Bon, tout ça pour dire que le repère Mermet, là, du territoire de Belfort, se réunira prochainement, donc le deuxième vendredi du mois, aux environs de 20h, donc au Memphis Bar, hein, 24 place des mineurs, 90 200, Giromani. Voilà, avec le printemps, les changements s'amorcent, et nous aussi, on bouge un peu. Et sinon, bonne grève à tous. Salut.
Daniel, bonjour. C'est Gérard de Lille pour annoncer notre réunion de ce soir, le lundi 3 avril à 20h. Café Bertaba, les Comtes des Flandres, 51 rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Voilà. À bientôt, Daniel. Salut.
C'est les amis de là-bas, si j'y suis à Brest, c'est juste pour vous dire tout simplement qu'il y aura, qu'on se rencontre mercredi prochain à 19h30 au Café de la Plage. Avec l'actualité qu'on a de ce temps-là, on n'aura pas à chercher de sujet de conversation. Voilà, tout simplement. À ciao.
Jeudi 6, premier jeudi du mois, on se retrouve tous à Clazé, au Petit Clazé, au Café de Léa, à 18h30. Mais en attendant, mardi prochain, demain, on se retrouve à 16h dans la capitale du Bocage, du nord de Sèvres, à Bressuire. Mais si, demain mardi à 16h, place Saint-Jacques à Bressuire, la République sera dans les rues de Bressuire. Il va falloir le voir pour le croire. Événement historique. Demain 16h, place Saint-Jacques à Bressuire. Salut!
C'est le repère des amis de là-bas, si j'y suis, de Montreuil. Nous ouvrons mardi 4 avril à 19h chez Ratatam, rue Général Gallieni. Et nous attendons les Montreuillois de retour de manif nombreux pour débattre, se rencontrer, partager. Voilà. Eh bien, à bientôt.
Et voilà, et ça c'est un nouveau repère à Montreuil, donc dans la banlieue parisienne, 93-100. C'est le Ratatam, le patron c'est Christophe, la correspondante c'est Marie-France. Et voilà, elle vous a tout dit, ce sera demain l'inauguration de ce nouveau repère. Il y en a d'autres qui sont en préparation, il y a des demandes, on discute, etc. Mais ça continue de fonctionner. Quelques messages encore, on a reçu de la part d'universités occupées par les étudiants qui organisent des rencontres et des programmes, pas mal de justement de leurs programmes. En voici quelques-uns, puis après on part à Saint-Ouen avec Guy Vanctil et ensuite on retrouve l'équipe du Monde Diplomatique.
Bonjour à tous, c'est Elisa de la commission animation de la Fac Saint-Cyr Paris 3, Fac toujours en grève et encore en grève et Fac qui ne se laissera pas berner par les fausses concessions de notre cher gouvernement. Je viens encore une fois vous donner le programme de notre semaine. Donc aujourd'hui lundi 3, on a à 11h tout à l'heure un tractage à l'usine à 26 d'Ivry. Mardi, je pense que tout le monde le sait, il y a une grosse manifestation nationale et nous ferons encore plus que la dernière fois et certainement encore plus à la prochaine. Mercredi à 9h30, on a un débat sur la précarité des diplômes, le contenu des formations et le marché du travail avec des intervenants de l'association Génération Précaire et deux inspecteurs du travail. À 17h, on a un autre débat avec les collectifs du 29 mai et leurs propositions alternatives. Jeudi 6, on aura certainement une action dans l'après-midi. Et à 18h, on aura un concert du groupe Les Petites Bourrettes qui viennent jouer généreusement pour nous. Et le vendredi 7, à 17h, on organise un meeting politique avec les représentants de gauche, de LO, OPS, donc en passant par la LCR, le PC, les Verts. Voilà, j'invite tout le monde à se rendre sur Saint-Cyr. C'est une fac populaire et ouverte, employés, étudiants, lycéens. Venez participer au débat, venez nous donner votre avis et venez nous soutenir. Merci, bonne journée.
Salut Daniel, c'est Pierre. Donc je suis au comité de mobilisation de la Sorbonne et de Tolbiac. Et donc en fait on organise des débats et des projections toutes les semaines. Donc les jours c'est lundi, mercredi et vendredi. Tout le monde est bienvenu et on aimerait beaucoup qu'il y ait des gens qui viennent participer du monde extérieur. Pour information, donc mercredi à 11h on a une conférence, une alternative pour les médias. À partir de 13h30 ensuite on a un débat sur le thème la destruction de la culture, partie du programme libéral. À 16h30, on a une projection de The Second Civil War de Joe Dante. Et le vendredi 7, donc, on a à 12h30 un débat sur le thème banlieue et université, convergence des luttes. Point d'interrogation. Et ce sera suivi à 16h30 de la projection de Alphaville de Jean-Luc Godard. Je te passe Laurent pour le programme du Barbizon.
Ouais, allô Daniel, donc on est très accueillants, on espère voir beaucoup de monde et nous-mêmes on a la chance d'être accueillis parallèlement par le cinéma Le Barbizon au 141 rue de Tolbiac, donc avec des projections et pièces de théâtre organisées par nos soins, participation libre. Mercredi à 20h30, on organise une représentation de 448 psychoses de Sarah Ken dans une mise en scène de Telmo Herrera avec Gwenal Rivas-Cibour et vendredi à 20h, projection de La Voix de son maître de Nicolas Philibert et Gérard Mordia en présence de Nicolas Philibert. Donc bienvenue à tous, on espère vous voir nombreux et pouvoir enfin se rencontrer et débattre un peu ensemble. Salut, merci.
Alors les amis de là-bas si j'y suis, le point repère en Dordogne c'est à Aix-Ideuil au 05 53 62 96 20, c'est le café resto Le Dracar et c'est mardi 4 avril à partir de 20h. Salut à tous, à bientôt.
Alors, salut Mermès, c'est Eudes, lycéen à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. C'était pour dire que même à Thonon, on dit non. Donc, mardi, une manif pour le retrait du CPE partira de la place des Arts à Thonon à 14h30. Mardi dernier, on était plus de 1000 dans les rues de notre petite ville. Donc, on espère que beaucoup de monde viendront mardi. Allez, salut Mermès et continue bien. Allez, salut.
Z Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi j'y suis avec Guy Vanquil et toute l'équipe en attendant que la peur change de camp. Voilà, ça va être ça demain. Ça n'arrête pas depuis pas mal de temps. Déjà, on est tous mobilisés, tous sensibilisés à voilà cette agitation, cette résistance française. Et on fait des comparaisons fréquemment avec 1968. En quoi ça ressemble à 1968? Qu'est-ce qui est différent? C'est un thème qui revient assez souvent. Il faut dire que les différences sont grandes, mais il y a des points qui sont comparables. Et notamment le rapprochement entre le monde étudiant et le monde ouvrier. Ça avait été la grande affaire en 1968, cette difficulté à établir une jonction entre ces deux univers. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce rapprochement se fait? Évidemment, c'est pas du tout le même contexte social, politique et économique non plus, et notamment évidemment la place de l'emploi. En 68, il n'y avait pas de chômage et on avait un avenir. Les choses, on le sait, ont basculé depuis, mais on a voulu ce matin aller voir avec Guy Vanquil la rencontre entre les étudiants et les salariés d'une entreprise à Saint-Ouen, l'entreprise PSA, Peugeot Citroën, et voilà ce que ça donne, voilà ce qui se dit à la porte d'une usine d'aujourd'hui à Saint-Ouen, entre les étudiants de Paris, de Sancier, les lycéens de Saint-Ouen et ceux qui se trouvaient, les salariés de l'entreprise ou des intérims de l'entreprise qui se trouvaient devant l'usine. Ça, c'est la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Et puis une deuxième partie, on retrouvera l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois d'avril qui, évidemment, eux aussi discutent, essayent d'analyser ce qui se passe, mais à leur façon, à eux, à leur façon de journalistes, d'analystes, et on verra, amusez-vous à voir entre ce qui se passe dans la rue devant l'usine et ensuite ce qui se passe dans les bureaux du Monde Diplomatique, les différences, les ressemblances, les échos, et peut-être que de tout ça sortira un peu de sens dont on fera le plein pour demain.
Bonjour, Demain République.
Christakis.
Christakis, c'est toi?
Gaël.
Là, vous avez une banderole, que je dise, la banderole. Abrogation.
C'est une banderole glorieuse qui a fait la une de l'UMA.
Est-ce que vous êtes à Sancier Paris 3?
Ouais, et aujourd'hui, nous tractons devant les usines Peugeot Citroën à Saint-Ouen, oui, pour les encourager à venir avec nous demain à la manif.
Et pour qu'ils fassent grève.
C'est des voitures qui passent et qui klaxonnent, on soutient la bannière.
Quand il y a un mouvement social fort, c'est parce qu'il y a une accumulation de contre-réformes, des attaques, il y a une accumulation de misère, de chômage, de précarité et tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'il y a aujourd'hui avec un cycle de contre-réformes néolibérales qui a été ouvert il y a 25 ans et qui a été intensifié depuis 95. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement et le MEDEF qui disent que il faut de la flexibilité dans le travail, parce que vous savez, la mondialisation et tout ça, nos entreprises, elles ont besoin, hein, c'est pas... Bon, moi, je dis, c'est ce qu'il disait pour la Constitution. C'était un texte, si vous regardez bien le texte, il y avait des articles très clairs sur la libéralisation de tous les services publics et tout ça. C'est la même logique. Et aujourd'hui, les gens, le fait qu'ils aient gagné, le fait que le mouvement social a gagné le 29 mai, ça lui a donné beaucoup plus confiance. Et aujourd'hui, on joue sur ça. C'était une première victoire le 29 mai. Aujourd'hui, on va en arracher une autre au gouvernement. Et bientôt, on va en arracher d'autres. Donc il faut contextualiser un petit peu la situation.
En fait, le CPE, c'est une goutte d'eau, c'est ce que tout le monde dit dans les AG et tout ça, étudiants, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y a tout le vase qui reste à renverser, ah non, et c'est pas ça qu'on veut essayer.
Paris 8, c'est le permis, représente, tu l'as seul.
Monsieur, bonjour. Alors, j'ai suivi les étudiants, les lycéens qui sont venus jusque là. Vous avez l'uniforme.
Ah oui, travailleur.
Voilà, PSA Peugeot Citroën. Vous avez des tracts aussi, c'est ça?
Oui. Ouais.
qu'on appelle
la CGET.
On l'appelle demain pour la manif aussi, pour contre le CPE.
Là, c'est la porte par laquelle les salariés viennent embaucher.
Oui. Oui. Oui, c'est l'entrée sortie.
Salut Abdelaziz.
Vous venez pour bosser là?
Ouais, nous on travaille parce qu'on a besoin d'argent.
Ouais, on bosse là.
Vous faites quoi?
Usineur. Non, conducteur d'installation.
D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez des lycéens étudiants qui viennent?
C'est bien quoi, c'est bien qu'ils se mobilisent quoi.
Pour leur avenir.
Voilà, ouais, c'est l'avenir, quoi. C'est pour leur avenir, et puis voilà. Hein. De toute manière, c'est de pire en pire, donc on sait jamais. Hein.
Vous, ça fait combien de temps que vous bossez?
33 ans.
Et vous voyez ça comment, tous les deux, cette mobilisation? Alors, est-ce qu'ils vont se fatiguer? Est-ce que ça va embrayer demain?
Moi, je crois que c'est dans la lutte que se forgent les militants. Et que si on a un manque et un déficit de militants dans les organisations syndicales, dans les organisations étudiantines, dans les partis politiques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lutte. Moi, comment dire, j'ai pas été longtemps à l'école, mais j'ai participé à la lutte de Chausson en 75, j'ai participé à la lutte des automobiles Peugeot Citroën en 82. Ça m'a appris plus que ce que j'ai appris dans les bouquins.
Vous avez appris quoi?
J'ai appris que nos intérêts sont les mêmes pour les étudiants, les salariés, les immigrés, les Français. Et j'ai appris aussi que il faut choisir son camp dès le début et que les jeunes, maintenant, ils sont traités pareil que les immigrés il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que on veut un ouvrier ou un jeune qui travaille avec un salaire minimum et qu'il y a toujours un prétexte pour dire que ça va pas. Il y a toujours une situation que eux ils comprennent beaucoup, nous on comprend pas. Le charbonnage de France, moi j'ai participé à des mouvements dans le Nord avec les copains marocains là-bas dans le Nord. Ça a été un mouvement dur avec la fermeture de charbonnage de Lens, Lille, Valenciennes, tout le coin. Mais ça nous a appris beaucoup de choses.
Bon, bah, bon courage, ouais. Anna.
Bonne journée. Bon courage.
Monsieur, vous passez par là ou
Je passe par là par hasard.
Et là, on est devant l'usine.
Oui, j'ai occupé pendant 35 jours, en 68, cette même usine.
Donc vous êtes un ancien?
De Citroën, bien sûr. 31 ans là-dedans. Je connais l'usine de A jusqu'à Z.
Ouais, 31 ans là-dedans, et maintenant vous êtes encore devant.
Oui, mais je suis en retraite maintenant.
Oui, mais vous êtes entre les étudiants d'un côté.
Et bien sûr.
Alors comment vous les trouvez? Qu'est-ce que vous pensez de leur discours, de leur slogan et de comment ils s'y prennent?
Ils ont une bonne méthode, puisque maintenant, oui. Et c'est d'un... Enfin... C'est aux ouvriers de porter plus, quoi. Ouais, c'est aux ouvriers de dire on y va, on y fonce, et voilà.
Et vous êtes d'où?
Licenciés. Non, nous on est d'Assas en fait.
Ah ouais, c'est pas pareil. Assas.
Non, c'est pas pareil. Non, mais on s'est investi d'Assas parce qu'à Assas on fait absolument rien et.
Vous faites tâche?
Ouais, en gros.
Non, en fait, on fait toutes les AG. Enfin, depuis le début, on s'est rallié à Assas parce qu'on a une amie qui est Assas, donc on fait les AG là-bas et on est dans les cortèges de Assas au manif.
Assas, le slogan, c'est pour le CPE.
C'est vrai ça ou pas? Parce que Assas, c'est la fac de Paris de droit qui est très connotée à droite.
Alors c'est vrai puisque sous les tables, ils collent des autocollants pour le CPE.
Et sur les panneaux d'affichage, il n'y a que les panneaux de l'Uni qui sont remplis, non à la grève. Enfin,
et ils nous traitent de marxistes.
Voilà. De Marx attaque.
On ne discute pas à Assas. Et on rentre au compte-gouttes maintenant. Désormais, c'est dans une petite porte et on doit monter notre carte. Et voilà.
Là, franchement, c'est pas compliqué.
Alors, en fait, moi, je suis à l'Institut français de presse, donc des personnes qui sont censées être des futurs journalistes. Ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe. Sincèrement, ils ne s'intéressent pas du tout. Moi, ça me choque. De ma promo, je pense qu'on est 5-6 à aller manifester, mais je pense que je suis la seule à le faire, toutes les manifestations, et à me sentir vraiment concernée.
Moi, c'est pareil. En plus, je suis en L3 de sciences politiques à Assas, donc pareil.
En ce qui me concerne, la plupart des personnes avec qui j'en parle...
Donc les étudiants, les futurs journalistes.
Voilà. Ne se sentent absolument pas concernés. Pour eux, ça ne les touchera pas. Alors, je ne sais pas pourquoi.
On peut pas avoir
ça, c'est à de la désinformation, en fait. Il me semble vraiment qu'il y a de la désinformation et pure et simple. Donc,
à la rigueur, rigueur, des futurs avocats d'affaires, je peux comprendre, mais des futurs journalistes.
Ah, mais je comprends pas, j'admets, je ne comprends pas, mais je suis révoltée contre ces gens.
Est-ce que ça peut être des occasions de travaux pratiques en cours?
Ouais, mais même nos profs de journalisme, enfin, on en parle. Enfin, moi, j'ai un cours de journalisme où on doit faire part de ce qui s'est passé pendant les semaines. Donc, on parle des CPE, mais les gens, ils en parlent, mais ils savent même pas ce qui s'est réellement passé, ce qu'ils y étaient pas. Donc, ils disent ce qu'il y a dans les médias, et c'est pas toujours juste, d'ailleurs, ce qu'il y a dans les médias, je trouve.
C'est pas très sérieux de commencer comme ça, hein. Tu veux finir journaliste?
Bah oui, mais bon, je suis critique du travail que je voudrais faire plus tard. Mais voilà, donc ils sont, enfin, non, mais enfin, je sais pas.
Mais ce que tu me dis, ça ressemble vachement à certains bouquins qui parlaient des petits soldats de l'information.
Exactement.
Ils sont tous formés dans les mêmes écoles et bah voilà quoi. C'est forcément ça ressort après dans l'information quoi.
Bah, c'est comme des reporters qui vont en Irak et qui passent leur journée dans les hôtels et qui vont raconter ce qui se passe parce qu'il y a deux trois sous-fifres qui sont allés sur le terrain. Moi ça me choque. Alors que moi je suis sur place.
C'est l'investigation.
Exactement.
C'est
puisse pas passer tous les messages qu'on reçoit sur le répondeur de la base si j'y suis. On a par exemple un auditeur d'Amérique latine ou avec un fort accent d'Amérique latine qui nous dit qu'il y a eu des manifestations à Buenos Aires, devant l'ambassade de France, avec des jeunes argentins manifestent, encourager les étudiants français là-bas. Et on a d'autres, pas mal d'informations comme ça, d'échos qui nous parviennent pour dire que dans telle ville ou dans tel pays, dans tel journal est étranger, c'est pas du tout l'image qu'on essaye de donner d'une France ringarde, crispée, archaïque, etc. Mais au contraire, des encouragements qui viennent un peu partout. Voilà, on continue. Alors, voilà les quelques photos sonores que Guy a fait ce matin devant cette usine à Saint-Ouen, usine PSA, Peugeot Citroën avec ses étudiants, avec ses tous ces voilà, ce petit monde et les étudiants en journalisme d'Assas. Effectivement, c'est assez inquiétant de penser que ils auront une carte de presse un jour et qu'ils dirigeront des médias. C'est assez préoccupant. Mais des gens qui dirigent des médias, ben voilà l'équipe du Monde diplomatique autour de ce numéro d'avril. On a beaucoup de sujets dont on voulait parler. On va d'abord parler évidemment de ce qui nous préoccupe pour demain, et puis après on verra si on a le temps d'aborder les autres sujets autour de la table. Ignacio Ramonet, Martine Bullard, Alain Grèche, Dominique Vidal, Serge Halimi et Bernard Cassen. C'est le diplôme. Voilà, vous entendez une conversation et des grincements de table, et donc on est au Monde diplomatique autour du numéro du mois d'avril.
Numéro 625.
Ah, tiens, voilà, ça c'est précieux à savoir. Voilà une information. Voilà une vraie information, c'est le numéro 625 du Monde diplomatique. Et de quoi est-ce qu'on va-t-on parler, évidemment, du CPE, mais de la France qui résiste, parce qu'on nous présente un pays qui décline, un pays qui tombe, un pays conservateur, bloqué, immobile, etc., réactionnaire.
Ringard, corporatiste, voilà. Vous avez oublié dans votre...
Tout ça. Et puis le progrès, ben, il est de l'autre côté. Le progrès, il est dans la flexibilité, il est dans la souplesse, il est dans la modernité. Et il y a quand même une inversion hein, totale à laquelle on s'est peu à peu, on a dû s'accoutumer peu à peu. Et il semblerait qu'au moins la rue aujourd'hui donne tort à ce retournement de sens, Ignacio Ramonet.
Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, il y a une sorte d'école de pensée qui s'est développée en France, qui a fleuri en France, ce qu'on appelle les déclinologues hein, ou les déclinistes. C'est-à-dire toute une série de penseurs comme Nicolas Bavrez, Christophe Lambert, Jacques Marseille, Alain Minc, auquel est venu s'ajouter d'ailleurs Michel Cantsu, également avec son célèbre rapport, et qui tous en quelque sorte ont affirmé et répètent dans les médias, parce qu'ils sont très populaires, c'est quand même des penseurs officiels, tous amis d'ailleurs de M. Sarkozy, tous proches conseillers de M. Sarkozy, même si ce sont des conseillers non officiels, et tous répètent effectivement que la France tombe, que la France plonge, que la France est malade.
On ne peut pas réformer dans ce pays.
Voilà, parce qu'on ne peut pas faire de réforme dans ce pays, que ce pays est le seul pays immobiliste, que seul pays qui recule. Ailleurs, les réformes se sont faites et les pays avancent. Donc, il y a tout.
Et d'ailleurs, dans la presse internationale, on souligne la ringardise du pays. On a honte quand on regarde la presse internationale. Par exemple, si on regarde The Economist, Serge, on voit qu'on est vraiment un pays. Si on prend The Economist, hein, il y a peut-être d'autres presse qui nous présente autrement.
Qui est quand même un hebdomadaire ultra-libéral.
D'autant que la presse internationale fait souvent appel à Alain Minc, Nicolas Bavrez, etc., pour avoir des appréciations sur ce qui se passe en France. Vous avez un certain nombre de correspondants à Paris qui font appel à tous ceux qu'on met en cause régulièrement et qui sont les commentateurs officiels de la situation française. Donc vous avez un effet d'abîme où la presse internationale ne fait que refléter les éditoriaux des grands quotidiens nationaux et régionaux.
Donc voilà, alors la France résiste en vérité.
Oui, on a vu d'ailleurs les éditoriaux des grands journaux, même des journaux prétendument de centre-gauche, etc., répéter cette thèse. Dire décidément la France est un pays immobile, la France est un pays qui bouge pas. Alors, on a l'impression que M. de Villepin a voulu, avec courage et audace, dire bien personne ne fait la réforme, finalement c'est moi qui vais la faire. Hein. Nicolas Bavrez avait reproché d'ailleurs à Villepin d'être debout devant Bush, on se souvient, puisqu'il avait fait son célèbre discours aux Nations Unies contre la guerre d'Irak, debout devant Bush mais couché devant la CGT. Alors on a l'impression que cette phrase a piqué M. de Villepin et donc il s'est lancé à réformer un peu tout seul, sans consulter personne avec ce CPE. D'autant aussi, c'est une impression, que finalement le CNE, qui est plus grave à la limite que le CPE, était passé dans l'indifférence un peu générale cet été, est entré en vigueur en septembre dernier, et donc finalement il y avait comme un prolongement de ce CPE. Cette image de la France immobile, de la France réactionnaire, de la France qui bouge pas, ne correspond pas à la réalité de ce que nous voyons. C'est tout de même un pays qui se soulève, un pays qui résiste. Voilà le seul pays aujourd'hui en Europe qui, précisément, par sa vitalité, par la force, l'énergie de sa jeunesse en particulier, mais aussi de ses salariés, parce que les syndicats ne se sont pas laissés faire, en tout cas pas cette fois-ci, comme ça s'était produit pour la loi sur les retraites en juillet 2003, eh bien cette fois-ci, le pays se soulève, et donc par conséquent, c'est le seul pays qui a pu freiner, finalement, l'une des idées, disons, de base du néolibéralisme, qui est la flexibilité. Le fait que les salariés puissent être engagés, embauchés, puis débauchés facilement par les patrons. Ça, c'est un des éléments fondamentaux. Bien, c'est contre ça que le pays se soulève une fois de plus, d'ailleurs. Ça s'était produit l'an dernier contre, finalement, les projets Fillon, d'une certaine façon. Ça s'était produit, bien entendu, en novembre-décembre 95. Et par conséquent, la France montre qu'il y a une vitalité exceptionnelle. Aujourd'hui, on pourrait se dire que ce qu'il faudrait attendre, c'est que en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, les salariés prennent exemple de la vitalité de cette France qui est debout pour faire les mêmes types de revendications.
on pourrait là, effectivement, arrêter ce déclin français qui est l'avance des principes néolibéraux. Ça, c'est le déclin.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a quand même eu 1 million de manifestants au Royaume-Uni, des fonctionnaires, oui, dans la rue, ce qui est jamais vu, enfin, de mémoire d'observateurs. En Allemagne, il y a une grève quasi permanente des services publics, mais qui est organisée à l'allemande en tournant de manière à prendre moins de risques. Mais la situation est très tendue aussi dans ces pays-là. Et l'exemple français est souvent cité.
Martine Bullard.
Oui, donc, d'autant que sur l'Allemagne, la fonction publique territoriale est en grève parce qu'on veut les faire travailler plus en n'augmentant pas les salaires. C'est-à-dire, c'est vraiment le symbole, je trouve, de la, là aussi, de la flexibilité. C'est-à-dire, on dit aux salariés, vous travaillez 2 heures de plus par semaine et vous êtes payé comme aujourd'hui. La fonction publique britannique, c'était intéressant parce que c'était contre la réforme des retraites et qu'ils ont gagné. Ils ont gagné une suspension de la réforme des retraites. Suspension, puisqu'on sait que Gordon Brown, qui est le futur, enfin le successeur désigné de Tony Blair, veut remettre en cause cette suspension de la réforme des retraites, où ils veulent, comme en France, allonger le temps de travail. C'est dire que la France a quand même là, effectivement, une valeur de symbole extrêmement importante.
Donc, c'est pas mal ce cocorico diplomatique.
Comme
là.
Il l'a vu le
23. Mais pas de cocorico, c'est-à-dire, n'exagérons rien, il faut savoir quand même que cette fois-ci, il y a eu unité syndicale. Rappelons-nous que sur la question des retraites, c'est bien la division syndicale qui a permis au gouvernement de promouvoir sa réforme. Là, il y a une unité syndicale. Au niveau européen, pour la première fois, la Confédération européenne des syndicats a pris position contre la flexibilité style monsieur Villepin, style CNE-CPE. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que la manifestation de demain est extrêmement importante parce qu'on voit bien que le gouvernement manœuvre quand même. C'est-à-dire, il promulgue la loi. Ce qui veut dire que n'importe quel employeur peut aujourd'hui appliquer la loi. Il n'a pas de formulaire, mais il peut le faire sur papier libre. Et on voit bien que Monsieur Sarkozy, qui est maintenant le grand négociateur en chef sur la question de l'emploi, a pour objectif de mettre en place un contrat unique. En gros, ils nous font un peu comme ils ont fait sur la retraite. C'est-à-dire, ils ont commencé à segmenter le marché du travail contre les jeunes, contre les femmes, contre les plus anciens, parce que maintenant on a des contrats seniors, comme vous savez, à partir de 57 ans, vous pouvez avoir un contrat précaire avec des salaires revus à la baisse. Donc, on segmente, et une fois qu'on a segmenté, on dit, c'est pas juste, les jeunes qui sont opposés aux plus anciens, les plus anciens qui sont opposés à ceux qui sont un peu plus jeunes. Bref, il faut un contrat unique. C'est le fameux contrat unique proposé par Monsieur de Virville à la fin des années 90, puis reproposé par Monsieur Candessu, dont Serge avait d'ailleurs parlé dans le Monde Diplo il y a quelques mois, et on voit se remettre en place l'idée d'un contrat unique. La précarité pour tous, c'est-à-dire vous êtes embauché, vous n'avez pas de droit, et si vous avez la chance de rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans l'entreprise, ce qui sera de plus en plus rare, comme on le sait, eh bien, vous acquérerez des droits, mais ce sera pour une minorité. Donc, la façon dont va se tenir la manifestation de demain, la façon dont va se mobiliser les salariés, les étudiants, les lycéens, et la façon dont va se nouer l'unité syndicale, qui me semble être une chose extrêmement importante. La France souffre beaucoup de la division syndicale. Donc, tous ces éléments doivent jouer pour qu'on ne manœuvre pas, c'est-à-dire qu'on ne nous enlève pas le CPE pour nous remettre un contrat précaire pour tous dans le cadre d'une loi dite de modernisation du travail. Or, on sait que M. Sarkozy, qui est quand même à l'origine du CPE, tout le monde le sait, puisqu'il s'en est vanté.
Ah, non, c'est pas tout le monde le sait. Là, il a l'air d'être le vainqueur, là, pour l'instant, aujourd'hui, alors qu'il est.
Alors, je vais revenir sur l'histoire. C'est-à-dire, quand le CNE et le CPE ont été mis en place, M. Sarkozy, son entourage, a vigoureusement protesté en disant, c'est scandaleux, M. de Villepin nous prend nos idées pour des raisons purement électorales. Quand il voit que ça marche pas, il recule et il dit, moi, je vais négocier. Et en même temps, il ajoute, il faut un contrat unique pour tous. Et donc le contrat unique pour tous, c'est ce que nous avions très bien montré le mois dernier dans les deux articles, un de Daniel Linhart et l'autre de Florence Lefrène, c'est que c'est la précarité pour tous, c'est quand même le modèle de M. Sarkozy. Et donc, il me semble que l'importance de la manifestation de demain est capitale.
Oui, ce qu'il fait, il y a sur Ramonex, c'est pas une poussée de fièvre à laquelle on assiste. Hein. Ce qui se passe actuellement en France, c'est la suite du refus du traité de constitution européenne. Vous avez un dossier entier sur les OGM et les PGM dans le diplôme. Là aussi, il y a une résistance de la France, et pas seulement de la France, au néolibéralisme, tout simplement.
La France est en pointe, je veux dire, sans le dire sans cocorico, comme vous disiez tout à l'heure, est en pointe dans la critique la plus radicale à l'égard du néolibéralisme. Ça s'est vu dans beaucoup d'aspects. On peut dire, dans une certaine mesure, que c'est pas par hasard si l'idée des forums sociaux mondiaux, etc., en essayant de créer un front international contre le néolibéralisme est apparu en France. Ou comme si, en France, il y a eu, évidemment, des luttes jusqu'à la révolte même des banlieues, qui avait malgré tout ce caractère.
Serge Limi.
Je veux préciser que selon une enquête réalisée par l'Université du Maryland, la France est le seul de 20 pays sondés dans lequel une majorité de l'opinion rejette l'économie de marché comme meilleur fondement de l'avenir. Il n'y a que 36% des Français qui sont favorables à cette idée que l'économie de marché, en quelque sorte, construirait un avenir radieux, et 50% des Français qui y sont hostiles. Et c'est là ce qu'on pourrait appeler, plutôt que le cocorico français, l'impardonnable exception française, ce qui a motivé de la part du ministre Renaud Dutreil, qui qualifie ce mouvement d'une crispation très française contre les patrons et les entreprises. Et en un sens, on peut se dire que cette révolte est d'autant plus importante qu'elle met en cause effectivement une politique européenne et même internationale. Qu'on voit ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'automobile américaine, où c'est la remise en cause des conventions collectives, en Australie, où le gouvernement conservateur de John Howard vient de démanteler les conventions collectives et d'y substituer des contrats individualisés. La législation votée permet de remettre en cause le droit au congé annuel, et elle exonère les entreprises employant plus de 100 salariés des garanties contre les licenciements abusifs. Et déjà, des syndicalistes australiens ont été renvoyés en vertu de ce texte. En Allemagne, où on projette un système de CPE pour 2 ans pour tous les salariés, vous vous souvenez que le gouvernement Schröder avait, il y a un peu plus d'un an, réduit de manière drastique les allocations des chômeurs de longue durée, qui ne toucheraient plus qu'un maximum d'environ 500 € par mois. Et à l'époque, vous vous souvenez peut-être, on nous avait dit, comme ils sont courageux, ces sociodémocrates allemands, comme il est courageux, Gerhard Schröder.
C'était le camarade des patrons. Voilà.
Or le courage de Gerhard Schröder, on vient de savoir maintenant comment il se traduit dans l'existence de Gerhard Schröder. Parce qu'il faut voir quand même ce que deviennent ces architectes des réformes. Depuis sa défaite aux élections, Gerhard Schröder s'est reconverti en conférencier de luxe pour un fonds spéculatif. Mais ce n'est pas tout, il est aussi président du comité des actionnaires du consortium chargé de construire un gazoduc germano-russe en mer Baltique. Un projet que Schröder avait encouragé quand il était chancelier allemand. Donc là, c'est le retour d'ascenseur. Il touchera en tout cas 250 000 € par an, rien que pour ce poste. Et ce n'est pas tout. Il est aussi conseiller du premier groupe de presse suisse, Ringier. Il a également rejoint la haute finance puisqu'il fait partie du comité européen de conseillers de la banque Rothschild. Donc on voit là qu'il y a quand même un problème quand ces courageux architectes des réformes deviennent vraiment des membres de conseils d'administration de multinationales.
Martin Bula.
Et les chiffres du chômage en Allemagne viennent de tomber, c'est-à-dire un an et demi après cette réforme, il y a une augmentation du chômage qui fait 11,4% de la population active, c'est presque un record au niveau européen.
Serge. Et je voulais enchaîner sur ce qui se passait au Royaume-Uni, parce que là, au Royaume-Uni aussi, des choses se passent. Le ministre travailliste Gordon Brown, qui est le successeur prévu de Tony Blair, vient de désigner 12 conseillers, personnalités du monde des affaires, pour réfléchir sur la compétitivité à long terme de l'économie britannique dans la mondialisation. Quel conseiller ? C'est un gouvernement de gauche, on pensait qu'il va y avoir des syndicalistes, etc. Bon, enfin, évidemment, il n'y a plus d'illusions depuis un certain temps, mais là, je dois dire qu'il a fait très fort, parce que parmi les conseillers, il y aura Bill Gates, ainsi que les présidents de Walmart, de Citigroup, de British Petroleum, et il y aura aussi Bernard Arnault, patron de LVMH. Leur réflexion sera bien évidemment très progressiste. On se souvient qu'il y a quelques mois, Walmart a été condamné à une amende de 172 millions de dollars pour avoir refusé à ses employés une pause déjeuner, et que les syndicats sont de fait interdits dans cette chaîne d'hypermarchés qui emploie plus de 1 200 000 salariés aux États-Unis. Donc on voit que ces réformes se mettent en œuvre, souvent avec le soutien de partis nominalement de gauche, et qui en fait demandent à des patrons de multinationales ceux qui les arrangeraient le mieux pour forger en quelque sorte de leurs petites mains la compétitivité de ces pays respectifs.
Bien, le nominalement de gauche, Dominique Vidal.
Oui, moi ce qui m'a frappé mardi dernier, on pense que demain il en sera de même, et c'est important qu'il en soit de même, c'est pas seulement la mobilisation contre la précarité, c'est aussi le refus d'une espèce de déni de démocratie, comme on en a rarement vu dans ce pays, quoi. Parce que beaucoup de gens, 82% des Français, ont voté pour ce président de la République au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, en pensant, sans doute avec
quelques illusions. Pas mal d'entre nous autour de cette table.
Sans doute.
Et pas tous, je vois des signes.
On était plus nombreux au deuxième tour de 2002 qu'aujourd'hui, à l'avouer. Et beaucoup de gens pensaient, avec sans doute des illusions, que quand même on tiendrait compte de ce rapport de force. Et il faut bien reconnaître qu'il n'en a rien été. C'est-à-dire on a une cascade de réformes néolibérales, les retraites, la sécurité sociale, la réforme de l'enseignement, et un mur contre toute forme de protestation. On a quand même eu, déjà, contre ces réformes, des mobilisations massives dans la rue, des sondages extrêmement forts, et puis ce pouvoir a perdu toutes les élections. Depuis, les élections régionales, les élections européennes, le référendum. Et on a ce mur. Et je crois que ce mur contribue à la force du mouvement aujourd'hui. Ça, les gens ne comprennent pas que ce pouvoir puisse continuer à faire le sourd. Alors, j'ai compris en écoutant, parce que ça m'arrive le 7-9 de France Inter, qu'il ne fallait pas parler d'autistes, parce que c'était injurieux pour les enfants autistes.
Ah.
Donc, on ne parlera pas d'autistes, mais on dira qu'ils sont sourds, aveugles et muets, complètement.
Un plaisir aux sourds.
Muets, non, hélas, dit Serge. Et je crois qu'en fait, et je rejoins ce qu'a dit Martine, plus sérieusement, je crois qu'il y a quelque chose de neuf dans la situation avec le CPE. La première, c'est la gravité de la remise en cause de l'ensemble du Code du travail derrière le CPE. La seconde, et c'est un élément important, c'est l'unité syndicale réalisée. Cette fois, tous les syndicats sont là, y compris la CFDT. Troisièmement, il y a eu la révolte des banlieues, et je crois qu'elle a fait un effet d'entraînement sur la jeunesse scolarisée, sur la jeunesse étudiante. Et enfin, il y a eu un véritable basculement de l'opinion. À la veille du discours de Jacques Chirac, dans lequel il nous a expliqué qu'on promulguait une loi qui était mauvaise puisqu'on allait la refaire, eh bien, il y avait 12% de Français, d'après les sondages, qui étaient pour le maintien et la promulgation du CPE. C'est quand même un véritable basculement.
Voilà, merci à l'équipe du Monde diplomatique, Bernard Cassagne, Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Maurice Lemoine, Martine Bullard, Dominique Vidal, qu'on vient d'entendre, et Alain Grèche. Beaucoup d'autres sujets ont été abordés ce matin. On en parlera sans doute au cours de la semaine à nouveau avec l'équipe du Monde diplomatique, l'élection israélienne, l'élection italienne, un reportage de Maurice Lemoine en Colombie sur les pas à la recherche d'Ingrid Betancourt, qu'il n'a pas trouvé, mais il nous apprend énormément de choses sur sa situation en Colombie. Et puis, évidemment, la question, l'importante question des OGM, auquel le Monde diplomatique consacre ce mois-ci un dossier complet. Alors demain, évidemment, vous savez ce que voilà, ce qu'il vous reste à faire. 14h30, place de la République à Paris, Marseille, c'est à 10h au Vieux-Port, à Toulouse, c'est place Arnaud Bernard à 14h30, à Nantes, 10h, place du Commerce, à 15h, place Jean Barre à Dunkerque, on va chanter la chanson de Jean Barre. Que les Dunkerques, quoi. Adore, puis il y a plein d'autres endroits en France. Ce qui est évidemment le plus intéressant, c'est les petites villes ou les petites villes moyennes comme Aurillac. Par exemple, dans le Cantal, ce sera à 14h, place des Carmes. À Saint-Armand, dans le Cher, 10h30, place de la République. À Auch, dans le Gers, ce sera à 10h30. Allée d'Étigny, à Morlaix, ce sera à 10h30. À Cholet, à 14h30, aux travaux, etc., etc. Vous avez toute une liste que vous pouvez retrouver sur le site bellaciao.org. Vous trouvez toute la liste des lieux où les choses se passeront demain, une journée historique. Et évidemment, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, c'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascal Riello et de Christophe Imbert.
le répondeur de la base suivie suisse, le 01 56 40 37 37. Et puis à ne pas manquer ce soir sur France 2, le procès de Bobigny, histoire de montrer que les chiens ne font pas des chats. Réclame.